Pape Ndiaye, bonjour. Vous êtes historien, vous enseignez à l'École des hautes études en sciences sociales et vous venez de publier un livre qui s'appelle La condition noire aux éditions Calman Levy. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez commencé par une thèse sur l'entreprise Dupont de Nemours, qui est un géant de l'industrie chimique américain et qui, à partir de 1945, fabrique à la fois du nylon et des bombes atomiques, comme vous l'expliquez. Alors ces deux innovations sont différentes, mais complémentaires en ce qu'elles symbolisent un petit peu le nouvel ordre social, économique qui s'instaure après la guerre. Alors je serais curieux de savoir quelles expériences, quelles lectures vous ont fait bifurquer, si je puis dire, de cette entreprise vers l'étude de la minorité noire.
Oui. C'est une bifurcation à l'évidence. L'histoire des entreprises n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire des minorités. Hélas, pourrait-on dire, car il serait évidemment intéressant de repenser l'histoire économique en intégrant ce genre de problématiques. Mais il se trouve en effet que ce sont des champs qui sont pour l'instant relativement étanches. Il se trouve que quand j'ai commencé mon travail de thèse donc en histoire économique et en histoire des techniques aux États-Unis, je l'ai fait parce que ces questions-là m'intéressaient intellectuellement et aussi dans le contexte américain pour me démarquer de formes d'identification à des sujets qui auraient été des sujets presque trop évidents dans le contexte de l'université américaine. D'ailleurs, j'étais venu jeune étudiant aux États-Unis pour travailler en histoire afro-américaine. Et puis j'ai finalement décidé de faire tout autre chose, de prendre un contre-pied presque complet à cela, en m'intéressant à l'histoire des entreprises, à l'histoire économique, tout en gardant en parallèle une mineure, si je puis dire, du côté de l'histoire des minorités. J'ai d'ailleurs écrit mon premier article sur le sujet de l'histoire afro-américaine il y a 12 ou 13 ans. Et donc, c'est une bifurcation, mais au fond, j'ai conservé au fond deux voies parallèles ou deux intérêts parallèles. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'intérêt mineur qui a pris le pas sur l'intérêt majeur. Mais les deux continuent de coexister. Et j'aime au fond l'idée d'avoir, sinon une double vie intellectuelle, parce qu'en réfléchissant bien, il y a quand même parfois des liens. En tout cas, le fait de ne pas être absolument et entièrement spécialisé dans un domaine.
Alors moi je vois un peu la publication de votre livre La condition noire, alors comme la résurgence, vous nous l'expliquez, d'un intérêt plus ancien, mais de manière plus générale, je la vois un petit peu comme une certaine innovation intellectuelle, institutionnelle, en France bien sûr, parce que aux États-Unis ça fait bien longtemps qu'on se penche sur ce qu'on appelle là-bas les Black Studies. Bon. J'ai l'impression que, comme vous l'expliquez d'ailleurs vous-même au début de votre livre, il y a encore 10 ans, ça n'aurait pas vraiment été possible. Alors, est-ce que, en tant que symbole du changement dans le champ intellectuel français, est-ce que vous avez malgré tout senti des réticences du point de vue de l'institution? Est-ce qu'il a fallu imposer un sujet qui est encore un peu en France illégitime?
Oui, il a fallu en effet convaincre. Plus exactement, et heureusement, beaucoup de nos collègues et beaucoup de personnes sont de bonne volonté et sont prêtes à se laisser convaincre à certains égards, mais je ne mésestime pas les résistances qu'il y a à parler de ce genre de sujets, qui sont des résistances assez profondément ancrées dans l'organisation du système universitaire, dans la manière dont les sciences sociales françaises ont réfléchi sur la question des inégalités depuis un siècle, dont la manière dont les disciplines de sciences sociales, et particulièrement l'anthropologie, se sont repensées et reconstituées après la Seconde Guerre mondiale. Bref, il y a un ensemble là d'éléments qui sont des éléments qui ne plaident pas pour la prise en compte de tels sujets. En même temps, j'ai quand même le sentiment qu'il arrive relativement rarement dans une carrière universitaire en général de se confronter à ce genre de choses, et c'est quand même plutôt excitant, c'est-à-dire le sentiment d'être sur un terrain qui n'est pas tout à fait vierge, mais qui enfin est quand même relativement vide, et qu'il y a beaucoup à faire Je trouve que l'excitation de ce point de vue-là l'emporte sur les difficultés, les résistances, les propos malveillants, etc. Et puis, comme vous l'indiquez, je pense que finalement les choses changent en France depuis quelques années et que donc il est plus facile de s'intéresser à ce genre de sujet aujourd'hui qu'il ne l'aurait été il y a une dizaine d'années. Finalement, il me semble quand même qu'il y a dans l'ensemble la reconnaissance que à la fois ce qu'on appelle le républicanisme français d'une manière générale et par ailleurs la forme des études universitaires dans les choix disciplinaires et la hiérarchie des sujets, que cela mérite d'être repensé, rénové. Et donc j'ai plutôt l'impression de m'inscrire dans un mouvement qui va quand même dans l'ensemble dans le sens qui est le mien.
Alors j'en viens à votre ouvrage, La Condition Noire, qui est paru il y a quelques mois. C'est un ouvrage passionnant, foisonnant, qui est à cheval sur plusieurs disciplines, et vous y faites preuve d'une érudition qui force l'admiration. Et vous y définissez la minorité noire comme, je vous cite, un groupe de personnes ayant en partage l'expérience sociale d'être considéré comme noir. Moi, j'y vois un petit peu deux influences et je voudrais vous interroger là-dessus. D'abord, je ne peux pas m'empêcher de penser à la négritude et à Césaire. Expérience, héritage, sentiment, feeling. Mais j'y vois aussi, bien sûr, la pensée de Sartre et en particulier des choses qu'il développe dans la question juive au sortir de la guerre. Est-ce que vous reconnaissez dans ces héritages intellectuels ?
Dans Césaire, incontestablement. On pourrait d'ailleurs remarquer qu'il a existé deux courants, au fond, dans le mouvement ou dans la nébuleuse de la négritude, qui n'a jamais été un mouvement organisé associativement ou même institutionnellement. Un courant qui est celui de Senghor, disons, qui est un courant un peu plus essentialiste, qui va insister sur des qualités propres à l'homme noir. On connaît certains propos de Senghor sur la psyché africaine, tournée vers l'émotion, l'instinct, plus par contraste avec la rationalité européenne, et donc certaines formes d'essentialisation qu'on a pu considérer comme une forme d'essentialisme stratégique, c'est-à-dire une étape par laquelle il convenait en effet de passer par l'essentialisme pour valoriser des manières d'être qui jadis étaient considérées avec mépris. Et puis, de l'autre côté, un courant qui est plutôt incarné par Césaire, qui lui va insister sur l'expérience sociale, l'expérience historique, en prenant en compte certains éléments de Senghor, mais tout de même en insistant sur la dimension historique de l'expérience noire. Et moi, je me situe plutôt donc dans cette perspective césarienne, si je puis dire, en essayant, de façon, de la manière la plus rigoureuse possible, de ne pas m'engager dans une voie qui pourrait essentialiser le groupe et laisser entendre qu'il existerait des noirs par des qualités qui seraient des qualités intrinsèques, propres à ces personnes, mais qu'il existe un groupe qui est bien défini par le regard posé sur lui, un regard évidemment particulier, lesté de considérations historiques.
C'est là qu'on pense à Sartre, justement.
Stigmatisante. Et là, évidemment, on pense à Sartre. Mais bien sûr, je ne méconnais pas les critiques qui ont été faites à la question juive de Sartre, critique que Sartre lui-même a reconnue dans les années 70, car ce livre admirable à bien des égards est au fond plus un livre sur l'antisémitisme que sur le monde juif, au sens où, au lendemain de la guerre, Sartre connaît très peu, de fait, le monde juif, et il méconnaît l'existence d'une culture juive riche, ancienne, qui survit et survivra certainement à la disparition de l'antisémitisme. Bref, le juif n'est pas qu'un effet simplement de l'antisémitisme, mais il y a autre chose. Tandis que, me semble-t-il, dans le monde noir, on a plutôt affaire à une très grande, surtout le monde noir français, une très grande hétérogénéité d'origine, de culture, etc. Et que donc, si le racisme et les discriminations anti-noires disparaissaient un jour, ce qui est évidemment souhaitable, on peut penser qu'il existerait et que se développeraient des cultures qui seraient des cultures afro-antillaises, mais que la qualification racialisée, celle de noir, tendrait, elle, à s'effacer. Et donc, d'une certaine façon, il me semble que Sartre aurait eu encore plus raison à propos du monde noir que du monde du monde juif, mais incontestablement, j'ai lu avec énormément d'intérêt ce que Sartre avait écrit, et d'une manière générale, une mouvance qui serait la mouvance existentialiste. On pourrait aussi mentionner le Fanon de Peau noire, masque blanc, Fanon qui évidemment critique Sartre par certains aspects, mais qui en est aussi l'un des héritiers intellectuels.
Alors votre réponse me fait penser à un autre sentiment que j'ai eu en lisant votre livre, c'est j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est volontaire, j'ai l'impression qu'il y a une tension dans le titre lui-même de votre livre. En effet, vous l'intitulez « La condition noire », sous-titre, « Essai sur une minorité française ». Alors, l'article définit la condition noire, laisse entendre qu'il y aurait une condition universelle. On est noir, il y a donc une condition noire. En même temps, vous parlez bien d'une minorité française, et donc, on a l'impression qu'à ce moment-là, vous rapportez plutôt le fait d'être noir à un contexte national. Alors, est-ce que selon vous, il y a une condition noire dans l'absolu, ou est-ce qu'on ne peut pas la penser sans la rapporter à des contextes différents, être noir en France métropolitaine, dans les Antilles françaises, aux États-Unis, au Brésil, etc.
Il arrive souvent que le sous-titre précise le titre, c'est peut-être plus courant d'ailleurs, là ce serait mon influence américaine dans la langue anglo-américaine, avec un titre large et puis une précision, que dans le monde de l'édition française, mais on le noterait quand même ici également dans la langue française. Par le terme de condition, donc je vise bien à cerner une expérience sociale, ou plutôt des expériences sociales, infiniment variables dans le temps et dans l'espace. En même temps, il me semble que si le livre porte sur la France, il est également très comparatif, et je puise dans de nombreux exemples étrangers, particulièrement du côté américain, qui est le mieux constitué du point de vue des sciences sociales et de l'histoire sur ce sujet. Et donc l'ambiguïté du titre, entre l'extension du titre et puis la réduction du sous-titre à l'espace français, elle me semble également traduire le fait qu'on ne peut pas parler de ce genre de sujet sans, d'une part, le situer dans le temps et dans l'espace, en l'occurrence la France européenne, mais en même temps que ce sujet ne peut pas être abordé dans une perspective qui serait une perspective strictement nationale, et que donc il convient d'élargir la focale sans perspective qui serait une perspective universelle, absolument globale, mais enfin avec une perspective comparée qui doit être, de mon point de vue, systématique.
Alors, je voudrais parler d'une autre tension qui traverse la condition noire, c'est ce qu'on pourrait appeler les éléments centrifuges de la condition noire, et j'y ai pensé par le fait d'une anecdote qui m'est arrivée, c'est que quand je suis allé à La Réunion pour travailler sur le transfert des pupilles réunionnais dans les années 60 et 70, j'ai été frappé de la manière dont les Réunionnais parlaient des transferts d'immigrés clandestins des Comores vers Mayotte, qui est français. Et pour le dire autrement, un Réunionnais cafre, c'est-à-dire noir, je ne crois pas qu'il se sente très solidaire d'un sans-papier comorien qui arrive à Mayotte, ni d'un Malien en centre de rétention à Roissy. Et pour parler dans un autre domaine, non plus national, mais cette fois social, là je pense à quelque chose dont vous parlez dans votre livre, vous citez le cas de personnes qui ont vraiment pas envie qu'on les confonde avec les casseurs sur la base de la peau, de la couleur de peau. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que le critère de l'appartenance nationale ou sociale n'est pas quelque chose qui vient fissurer la condition noire ?
Si, la condition noire ne suppose pas l'existence de liens nécessaires de solidarité entre les personnes concernées. Il serait d'ailleurs abusif, en effet, de considérer que une expérience sociale commune fonderait nécessairement des éléments de solidarité. Et c'est vrai pour des groupes professionnels, c'est vrai pour les femmes, c'est vrai pour la constitution de n'importe quel groupe social. Et donc, en effet, il est même frappant de voir que les groupes qui sont situés dans des ou qui vivent des expériences de domination quelconque, dans un ordre social quelconque, historiquement parlant, que ces groupes-là peuvent être traversés de tensions, de rivalités, de rivalité exacerbée par la concurrence pour l'obtention de tel ou tel bien rare, de la stabilisation juridique, sociale, etc., pour l'emploi, pour, etc. Et donc on le voit dans certaines régions, du côté de l'océan Indien, mais on le voit aussi également dans les Antilles françaises, à propos de l'immigration haïtienne, par exemple, qui fait l'objet d'une très forte stigmatisation, d'un rejet, qu'on pourrait presque qualifier à certains égards de raciste, en tout cas de très fortement xénophobe. On le voit ici également en France hexagonale à propos des sans-papiers qui ne sont pas toujours bien accueillis par des personnes installées relativement récemment et provenant d'aires géographiques relativement voisines, mais qui considèrent que ces sans-papiers, en l'occurrence, d'une certaine façon, les menacent ou fragilisent leur situation ou autre, incontestablement. Et donc, cette question-là des formes de solidarité est une question à la fois importante, mais qu'il convient, me semble-t-il, de disjoindre, au moins analytiquement, de la question de l'expérience sociale. Et donc, au-delà des récriminations et des tensions que l'on peut observer sur ce sujet, il est intéressant d'observer que, en dépit de ce que les personnes peuvent dire, y compris dans des mouvements qui peuvent être des mouvements de colère ou de rejet, ces personnes-là partagent, ont en commun quelque chose. Et donc pour moi, il ne s'agit absolument pas de construire un groupe qui serait uni par des expériences semblables, absolument semblables dans l'ordre social. Les gens sont très différents, ils peuvent être politiquement différents, etc., etc. J'ai simplement essayé de réfléchir sur le plus petit dénominateur commun, ce qui reste, le précipité, n'est-ce pas, qui restera lorsqu'on aura fait le compte de l'infinie diversité des positions sociales, des trajectoires géographiques, socio-économiques, etc. Et ce précipité-là, ce plus petit dénominateur commun, c'est que, en dépit de ce que les gens peuvent eux-mêmes dire, mais qu'ils reconnaissent quand même in fine, c'est qu'il y a quelque chose comme une expérience noire en France, qui relie le bourgeois du 16e arrondissement, si on devait prendre cet extrême, et puis le sans-papier tout fraîchement arrivé, c'est que ces deux pôles extrêmes, ont quelque chose en commun, nolens se volens, d'une certaine façon, et éventuellement, mais ça n'est pas une nécessité, ça n'est même pas une obligation, éventuellement un intérêt commun à lutter contre ce quelque chose-là dont ils souffrent tous les deux.
Votre livre s'ouvre par une préface qui est due à la romancière Marine Day, qui est une préface que j'ai trouvée admirable, c'est sous la forme d'une nouvelle, et vous m'y avez fait penser parce que vous avez parlé du précipité vous-même, de ce qui reste quand on a enlevé tout le... Alors, bon, je la résume en une phrase de manière nécessairement réductrice. Il s'agit de deux sœurs, l'une au teint clair qui devient aigrie parce qu'elle s'imagine qu'elle est victime de racisme, et l'autre au teint foncé qui, elle, devient dure à force de franchir les obstacles et les discriminations. Alors, ça m'a fait penser, je ne sais pas pourquoi, au titre de Malraux, La condition humaine. Et peut-être que vous-même, vous y avez pensé, La condition noire, la condition humaine. J'ai l'impression que dans cette nouvelle de Marine Diaï, il y a comme une espèce de fatum auquel on ne pourrait pas échapper. Hein. Alors, ce que j'ai envie de vous dire de manière un peu provocatrice, c'est peut-on sortir de la condition noire ?
Il y a, me semble-t-il, à converser avec... Les personnes que j'ai sollicitées pour le livre, il y a quand même quelque chose auquel on ne peut pas tout à fait échapper. Autrement dit, y compris celles et ceux qui vont rejeter ce qualificatif racialisé, qui vont se réclamer de l'universel humain ou de la République aveugle à la couleur de peau, qui vont se réclamer d'une origine géographique spécifique plutôt que de ce terme global dans lequel elles ne se reconnaissent pas et qui leur semble de surcroît être péjoratif, que ces personnes-là vont tout de même reconnaître qu'une partie de leur vie sociale est néanmoins affectée par ce regard-là posé sur elles. Et que donc, à leur corps défendant, si l'on peut dire, elles seront bien considérées comme telles. Et donc il y a quelque chose là comme une forme de... quelque chose auquel on ne peut échapper d'une certaine façon. C'est quelque chose qui s'impose à vous, qui vous rattrape par le collet au moment où vous n'y pensez plus, parce qu'on n'est pas à chaque instant noir, bien entendu. On ne l'est que dans des moments spécifiques, quand cette question-là se pose à vous, bien entendu. Et donc il y a là comme un fatou. Ce qui me paraît raisonnable d'envisager, ça n'est pas évidemment le noir, que cet aspect physique disparaisse, encore qu'on puisse rêver à une société entièrement métissée, mais enfin ça semblerait laisser entendre que le fait d'être blanc ou noir, par exemple, serait une sorte de résidu du passé, qu'il s'agirait absolument d'abolir dans une société future, ce qui ne me paraît pas être forcément la meilleure démarche. En revanche, ce qui me paraît raisonnable, ça n'est pas d'éviter le fait d'être noir, c'est d'éviter ou de lutter contre le souci de l'être, c'est-à-dire contre les difficultés qui sont associées à cela, n'est-ce pas ? Et donc, l'objectif, c'est plutôt un objectif, me semble-t-il, de déracialisation de la société française. Le fait qu'être noir ne compte pas plus qu'une autre caractéristique physique, la couleur des cheveux ou la couleur des yeux, si l'on voulait prendre ces exemples. Et donc d'alléger, au fond, l'impôt de couleur qui pèse sur les personnes. Mais je pense en effet qu'en l'état actuel des choses, et c'est vrai pour la société française, mais c'est vrai aussi pour, me semble-t-il, beaucoup d'autres sociétés de par le monde, là où il existe des populations noires en nombre plus ou moins important, que pèse sur ces personnes quelque chose comme un fatum, en effet, et que cela mérite évidemment d'être analysé, pris en compte par tous ceux qui s'intéressent à la société et à ses inégalités.
Alors vous venez d'employer une expression qui m'a frappé. Vous avez dit, à un moment, le fait d'être noir, c'est quelque chose qui vient vous rattraper au collet. C'est une expression frappante. Et puis ça me fait penser à quelque chose dont vous parlez dans votre livre. C'est une anecdote assez traumatisante. Je crois que c'est un avocat qui explique qu'il est avocat, qu'il n'a pas du tout envie de s'enfermer dans des causes noires par communautarisme, mais qu'il sait très bien que quand il se promène en costume dans la rue, il n'est jamais qu'un nègre. Anecdote terrible. Alors je voudrais en venir justement aux discriminations et au racisme. Vous citez un autre témoignage dans votre livre, c'est une autre personne qui explique que quand il monte en poste de responsabilité dans une entreprise, il explique qu'à partir d'un certain niveau, on a l'impression qu'on marche sur les plates-bandes des Blancs. Autre anecdote terrible. Alors, je voudrais savoir si toutes ces souffrances, toute cette discrimination, est-ce que c'est ce que vous appelez la cause noire ? C'est une expression que je prends de vous.
Tout à fait. La cause noire, c'est l'examen de forme politiques par lesquelles on réduirait le poids du racisme et des discriminations. Et donc, éventuellement, de formes de solidarité qui regroupent les personnes directement concernées. Et aussi celles qui le sont moins, mais au moins celles qui sont directement concernées. Ça, c'est la cause noire. Mais préalablement, il est une autre opération qui est nécessaire, c'est celle qui consiste, en effet, à mesurer, à analyser le poids des discriminations, justement, à reconnaître leur existence, ce qui n'a pas toujours été le cas en France, tant nous avons été, au fond, centrés sur la lutte antiraciste, avec ses formes de mobilisation spécifiques, avec ses modes de sa pédagogie antiraciste spécifique, hein, qui est le fruit, évidemment, de la Seconde Guerre mondiale et de l'anticolonialisme. Bref, le déplacement vers la question des discriminations, qui est une question à certains égards plus complexe, qui nécessite d'être plus intellectualisée, qui nécessite des outils de mesure plus sophistiqués, tant elle est plus souterraine, plus indirecte, elle ne se révèle pas avec la brutalité de la menace ou de l'injure raciste qui est en soi immédiatement reconnaissable. Et donc cette opération-là, qui est une opération plus intellectuelle, est un préalable à une réflexion qui porterait, elle, sur les moyens de rassembler les personnes sur le fondement de l'expérience sociale commune vécue par les personnes en question, y compris celles qui sont situées, comme vous l'indiquiez à propos de ce cadre ou de cet avocat, dans des strates sociales et professionnelles qui seraient censées les protéger contre les assauts les plus directs et les plus brutaux de la stigmatisation anti-noire. Or, c'est évidemment tout autre chose dont il est question.
Alors, quand on parle de la France, on ne peut pas s'empêcher aussi de penser à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. On s'aperçoit que là, 50 ans après la fin de la ségrégation, des gens comme Colin Powell, Condoleezza Rice et bien sûr Barack Obama arrivent aux affaires. Qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à la situation française et européenne ?
Ce qui est évident, c'est que depuis un demi-siècle bientôt, le monde noir américain a enregistré des progrès assez spectaculaires dans la présence, dans la représentation, pourrait-on dire, dans des mondes qui, jadis, leur étaient évidemment fermés, celui du pouvoir exécutif, celui aussi d'instances législatives ou judiciaires, où la présence afro-américaine était jadis inconcevable à tous les égards. Et donc, de ce point de vue-là, l'élection d'Obama, extraordinaire et historique à tous les sens du terme, vient couronner une évolution qui est une évolution entamée depuis la fin des années 60, en particulier dans le monde politique. Il y a aujourd'hui 10 000 élus noirs, il n'y en avait que quelques dizaines dans les années 60 et un peu dans toutes les strates politiques, pas tellement au Sénat, mais enfin, les choses peuvent également changer de ce côté-là. Incontestablement, ça c'est un aspect très positif de l'histoire américaine du XXe siècle. Néanmoins, il ne faut pas non plus négliger le fait que, parallèlement à cela, le monde noir situé dans les couches les plus modestes, celui des ghettos, pour le dire vite, a plongé économiquement, également politiquement, par des formes de désaffiliation et d'abandon politique très évidentes à partir des années 70. Et donc on a deux situations qui sont des situations complètement divergentes. Un monde des classes moyennes supérieures qui a stabilisé ses positions et qui s'est accru, notamment par l'affirmative action, je vais y revenir, et puis un monde noir pauvre qui lui a plongé. Il ne faut jamais perdre de vue cette divergence-là et ces itinéraires-là sociaux depuis un demi-siècle. Donc pour répondre directement à votre question à propos des trois personnes, et notamment d'Obama, la première réponse, ce serait celle des progrès, et notamment des progrès enregistrés grâce à des dispositifs politiques qui ont permis, en l'occurrence à ces trois personnes, mais à beaucoup d'autres, de franchir des étapes ou d'ouvrir des portes qui, jadis, leur auraient été fermées. Et donc, il est évident, pour le dire encore plus nettement, qu'une Condoleezza Rice, qu'un Colin Powell ou qu'un Barack Obama, comme eux-mêmes l'ont reconnu, parce que ça n'est pas un sujet de honte, après tout, ont bénéficié de dispositifs d'action positive, en particulier à l'entrée à l'université et dans les instances de la fonction publique, qui ont favorisé la diversité dans les lieux où elle n'avait pas cours, les échelons supérieurs de l'armée américaine, dans le cas de Colin Powell, puis le gouvernement américain dans son cas et dans celui de Condoleezza Rice, ou bien dans le cas de Barack Obama, l'entrée à l'université de Harvard, après un parcours universitaire et aussi un parcours de militant communautaire qui ne le prédisposait pas de façon particulièrement évidente à entrer dans l'école de droit la plus prestigieuse du pays. Et donc, me semble-t-il, si on met cette situation en regard de la situation française, force est de s'interroger sur ce qu'il serait possible de faire, pas simplement du point de vue du droit antidiscriminatoire, sujet qui en lui-même mériterait évidemment un examen, mais également du point de vue de ce qu'on appellera rapidement la diversité et des actions un peu politiques, volontaristes, que l'on pourrait mener dans ce sens.
Alors justement, vous venez d'employer un terme, diversité. dont je voudrais qu'on fasse ensemble la généalogie. Bon, depuis quelques années, j'ai l'impression que c'est pas depuis très longtemps. Les hommes politiques, les médias parlent soit de diversité, soit de minorité visible. Bon. Il me semble qu'il s'agit là d'euphémismes plus ou moins maladroits. En effet, quand on parle de minorité visible, ça renvoie à qui? Je pense que ça renvoie plutôt aux Noirs et aux Maghrébins, mais à ce moment-là, ça renvoie à une couleur de peau ou à une ethnie. Et ça ne renvoie pas nécessairement, ou en tout cas pas dans ce terme, ça ne renvoie pas à une histoire comme la colonisation, qui est aussi propre à ces deux groupes. Deuxièmement, le terme de minorité visible me paraît parfois bizarre. Il y a des minorités visibles, y en aurait-il donc des invisibles? Lesquelles? Les femmes? Les juifs? Je voudrais vous interroger là-dessus et je voudrais savoir si, à votre avis, ces euphémismes ne seraient pas une manière de fermer les yeux sur les origines et les mécanismes de la discrimination.
Les termes qu'on utilise ont toujours des avantages et des inconvénients, et celui-ci, celui de minorité visible en l'occurrence, n'y échappe pas incontestablement. Mais il a d'abord des avantages, mentionnons-les quand même au passage. Le premier, c'est bien d'abord de cerner et d'utiliser la notion de minorité telle qu'elle s'est développée initialement dans les sciences sociales américaines, particulièrement autour de l'école de Chicago. Louis Wirth est l'auteur d'un célèbre article sur le sujet paru en 1945, qui au fond visait à abandonner la vieille acception de minorité, qui est l'acception qu'il appelle européenne, celle des minorités nationales luttant pour leur indépendance dans un cadre impérial, par exemple dans le cadre de l'Empire d'Autriche-Hongrie. La question minoritaire au XIXe siècle est évidemment centrale dans la vie politique européenne, pour proposer un autre sens, qu'il appelle un sens américain, celui d'un groupe qui est victime, à l'échelle de groupe, d'un certain nombre de processus discriminatoires. Et donc, lorsqu'il écrit cela, il pense aux Noirs, bien entendu, mais pas seulement. Il est l'auteur du fameux livre Le Ghetto, qui lui aussi, d'ailleurs, transposait un terme, j'y pense en parlant, qui est le terme de ghetto, qui est un terme d'origine médiévale, qu'il déplace dans le monde contemporain. C'est lui qui a opéré également ce déplacement. C'est vraiment un sociologue très important, Louis Wirth. Et donc, il pense aux Noirs, bien sûr, mais il pense aussi à d'autres groupes. Il pense aux Juifs, monde qu'il connaît particulièrement bien. Il y a d'autres groupes ethniques européens qui vivaient dans des conditions, qui étaient objectivement des conditions marquées par des processus racistes, antisémites et discriminatoires d'une manière générale. Donc la notion de minorité est d'abord une notion importante. Et puis ensuite, il y a cette question de la visibilité. La question de la visibilité est éminemment problématique parce qu'on pourrait arguer que des groupes invisibles peuvent être visibles et qu'au fond, les processus racistes et antisémites ont historiquement eu pour objet aussi de visibiliser l'invisibilité et d'essayer de débusquer derrière l'apparence de neutralité, ce qui renvoyait, n'est-ce pas, à une origine douteuse. Et donc, il y a bien là des superpositions et une frontière très floue entre le visible et l'invisible. Mais enfin, on pourrait reconnaître, de façon dans l'espace français contemporain, que la visibilité de l'apparence physique dans la visibilisation des groupes est plus nette en ce qui concerne les Noirs et les Arabo-Berbères que en ce qui concerne des groupes comme les homosexuels, par exemple, ou éventuellement les Juifs, quoique les Juifs ne soient plus en France victimes de phénomènes discriminatoires, même si l'antisémitisme existe parallèlement. Et donc il y a bien quand même une différence de ce point de vue-là qu'il est important de noter sans la figer de façon trop lourde. Et donc le terme d'ailleurs de minorité visible, l'expression vient du Canada. Hein. Ce sont souvent des termes qui sont acclimatés, qui sont passés dans la langue française via le Québec. Il y a d'autres expressions comme ça. La discrimination positive est également d'origine canadienne, si on voulait en tracer le parcours géographique. Et donc la notion de minorité visible me semble quand même utile quand elle vise à cerner une expérience sociale spécifique marquée par cette apparence-là, qui est une apparence dont il est difficile de se déprendre tout à fait. On pourrait examiner des alternatives à cela. Vous ne les mentionnez pas, mais je serais quand même intéressé de les entendre. On pourrait mentionner, on pourrait parler, moi j'en parle parfois, de minorités post-coloniales, hein, par exemple. C'est-à-dire, puisqu'au fond, ce sont bien des groupes qui viennent de l'ancien espace colonial, et donc des groupes qui ont une longue histoire, n'est-ce pas, avec la France. C'est une vieille histoire, une histoire à distance, mais ou pas d'ailleurs, mais c'est une longue histoire par opposition à des groupes migrants qui viennent d'espaces avec lesquels la France a entretenu des relations très, très distantes, étrangères d'une certaine façon. Les migrants postcoloniaux ne sont pas tout à fait étrangers. Donc on pourrait parler de minorité post-coloniale, et l'expression me va également, mais bien entendu, je crois qu'il est quand même utile, si vous voulez, d'être lucide sur les problèmes que posent les qualifications, la qualification des groupes, sans pour autant renoncer évidemment à qualifier les groupes. C'est-à-dire que l'opération qui consiste à déconstruire les notions, à en montrer le caractère problématique, relatif, etc., est évidemment nécessaire, mais il me semble qu'elle ne doit pas aboutir non plus à une sorte de champ de ruines où on finirait par renoncer, n'est-ce pas, à nommer les groupes, tant le fait de nommer serait en soi problématique et tendrait éventuellement à essentialiser, etc. Ce n'était pas le cas de votre remarque, mais vous voyez, et donc moi je pense qu'il est à la fois très important d'être au fait sur les problèmes de la qualification sociale, mais en même temps de ne pas renoncer. Voilà.
Alors, c'est vous qui me soufflez la dernière question, l'action. Vous êtes membre du Cercle d'action pour la promotion de la diversité en France. Vous êtes membre du Conseil scientifique du CRAN. J'ai envie de vous poser une question qui, à mon avis, dépasse de loin ce que vous appelez la cause noire. C'est la suivante, c'est quel rôle peut et doit avoir l'intellectuel dans la société civile ?
Il me semble qu'on assiste aujourd'hui à quelque chose comme une nouvelle forme ou de nouvelles formes d'engagement intellectuel dans un certain nombre de questions relatives à la société française et de questions plus larges. Et que, au fond, le retrait que l'on a observé dans le monde intellectuel à partir, grosso modo, de l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, que ce retrait-là, qui s'explique de mille et une raisons, en particulier par l'affaissement évidemment des grands systèmes idéologiques qui structuraient en partie la pensée intellectuelle française, cet affaissement dans les années 70 en particulier, que cette phase-là de retrait, me semble-t-il, touche à sa fin et qu'on assiste actuellement à de nouvelles formes d'engagement qui ne reprennent pas les motifs politiques ou les formes d'engagement qui étaient celles des années jusqu'aux années 70, au fond, mais qui les renouvelle, qui les repense, en particulier sur des questions sans doute plus spécifiques. On a affaire à des formes d'engagement plus localisées, moins globales, moins systémiques, etc. Donc c'est la première remarque que je ferai. La seconde, c'est que, au fond, il me semble que un certain nombre de secteurs de recherche, de champs d'études, se sont développés précisément parce que ceux qui les ont portés, ceux qui y ont travaillé, étaient engagés dans des formes, dans des causes, pourrait-on dire, dans des causes, oui, qui étaient liées à ces champs d'études. Autrement dit, qu'on ne peut pas penser le développement de l'histoire des femmes, par exemple, dans les années 70, si on ne l'articule pas à des questions qui sont relatives au féminisme, parce que précisément, les historiennes des femmes étaient aussi, à certains égards, des militantes féministes, et qu'elles pensaient leur travail intellectuel et universitaire en articulation à des causes qui étaient des causes liées aux femmes et aux diverses formes de discrimination qu'elles pouvaient subir. On pourrait remonter plus loin dans le passé et parler bien sûr de l'histoire ouvrière. L'histoire ouvrière aussi était associée pour ses tenants à des formes d'engagement politique, syndical et autres. On pourrait aussi remarquer que les universitaires ne sont pas des esprits qui flottent dans l'air raréfié des idées, bien entendu. Ils sont attachés à des mondes sociaux, mondes qui ont souvent une influence sur les choix qu'ils peuvent faire. Influence qui peut apparaître comme presque inexistante à première vue pour beaucoup d'entre eux, mais quand on regarde d'un petit peu plus près, si je puis dire, on s'aperçoit souvent que eh bien, ce qui apparaît comme un choix tout à fait distinct de son monde social y est relié d'une manière ou d'une autre, et je crois qu'il est tout à fait intéressant de s'interroger soi-même sur le pourquoi de ces choix de recherche. Moi, si je suis devenu américaniste, par exemple, si je me suis intéressé aux États-Unis, ça n'est pas tout à fait par hasard. Je pense que, d'une certaine façon, je voulais m'intéresser à un autre pays que la France, où ma vie sociale n'était pas du tout malheureuse, mais enfin, il me semblait qu'aux États-Unis, j'allais trouver des formes de réponses à propos de ma vie, de mon identité, et que ce détour par les États-Unis était important pour moi, pas simplement pour l'université française, si je puis dire. Donc on est attaché à cela. Il est évident que je suis aussi attaché au monde noir en général, français et autres, et que j'ai intérêt en tant qu'individu à ce que les choses s'améliorent pour le groupe des Noirs en général. J'ai un intérêt personnel, en quelque sorte. Bref, que les mondes sociaux des chercheurs, évidemment, influent sur les choix qui sont faits, qu'il est important de le reconnaître plutôt que de mettre ça de côté, de favoriser une approche purement intellectuelle et détachée des mondes sociaux. Et donc, il est, me semble-t-il, intéressant à la fois de réfléchir là-dessus et de réfléchir aussi aux formes d'engagement possibles. Car il me semble en effet qu'il est à la fois nécessaire et utile, plus exactement, d'être attaché à des causes qui peuvent être des causes politiques, que j'appelle des causes relativement spécifiques, tout en les pensant de manière suffisamment large et globale. Hein, il ne s'agit pas de rester enfermé dans cette question-là. Moi, la question qui m'occupe particulièrement, c'est bien la question des minorités et de toutes les situations discriminatoires en France, parmi lesquelles les situations vécues par les Noirs. Mais il ne s'agit pas de faire des hiérarchies d'importance particulière. Ces hiérarchies-là ne dépendraient que de mes propres choix et elles seraient tout à fait contestables. Donc de penser la question minoritaire en France, d'introduire ces questions-là dans le champ universitaire et également de souhaiter que cette prise en compte par le monde universitaire ait des effets politiques et associatifs en général. Mais je ne m'occupe pas directement, si vous voulez, des questions qui seraient des questions relatives à l'organisation des groupes ou à des formes d'engagement. Mais je souhaite que mon travail soit un travail utile aux personnes qui, à un titre ou à un autre, sont engagées dans un mouvement par lequel les minorités s'organiseraient en France, non pas par sécession ou par communautarisme, le mot est évidemment extrêmement problématique en soi, mais enfin ce n'est pas cela auquel je pense, mais parce qu'il s'agit de faire reconnaître des torts et des méfaits qui, faute de porte-parole suffisamment influents, efficaces et zélés dans la société civile française telle qu'elle est historiquement organisée, avec ses partis, ses syndicats et ses grandes associations, des problèmes qui végètent, en quelque sorte, qu'il importe de mieux reconnaître. Ça, c'est mon objectif politique. Je considère que la lutte contre les discriminations ne se satisfait pas simplement d'un travail par le haut avec les institutions, mais qu'elle nécessite également une mobilisation des personnes, de toutes les personnes de bonne volonté, et particulièrement, bien sûr, de celles qui sont directement affectées par la question des discriminations. Et donc, à ce titre-là, je suis un intellectuel engagé, n'est-ce pas, mais avec des formes d'engagement qui sont un peu différentes, évidemment, des formes d'engagement classiques, qui, au fond, subordonnaient, n'est-ce pas, le travail intellectuel à la cause politique. Moi, je pense qu'il est absolument indispensable de conserver au travail intellectuel, ses formes d'autonomie, ses formes de tension aussi par rapport à l'engagement politique. J'indique dans l'introduction de mon livre que certaines choses que je dis ne sont susceptibles de ne pas nécessairement plaire aux militants de la cause noire, mais qu'il importe de les dire quand même, donc je ne subordonne pas mon travail à la cause noire en général, mais j'estime néanmoins, modestement, que ce travail peut aider à placer ces questions sur des fondements solides, à répondre aux objections, et puis donc à faire avancer le débat sur un certain nombre de questions qui m'importent. C'est dans ce renouvellement de l'engagement intellectuel que je me situe quant à moi, et j'observe avec plaisir que ces formes-là d'engagement s'observent dans un certain nombre d'autres secteurs, du côté du féminisme par exemple, qui se renouvelle de manière intéressante aujourd'hui, et d'autres questions approchantes. Il y a quelque chose qui est en train de bouillonner, et dans le monde intellectuel français, universitaire, en particulier dans une génération un petit peu plus jeune en quelque sorte, en tout cas qui n'a pas connu la grande époque de l'engagement politique, et également du côté de la société civile, avec ses difficultés, mais enfin avec quelque chose qui relève quand même d'un mouvement qui représente des groupes qui ont vocation, me semble-t-il, à être politiquement représentés si on veut que leurs questions soient traitées, fassent l'objet d'une attention politique, et pas simplement d'un discours rhétorique, cosmétique, en quelque sorte, qui est celui qu'on observe actuellement sur les discriminations. Moi, je serais très que la lutte contre les discriminations en particulier ne soit qu'une affaire simplement de hauts fonctionnaires et d'institutions, aussi honorables soient-elles. Je pense que là, on aura manqué quelque chose. Il est donc indispensable d'organiser politiquement des groupes qui ne disposent pas forcément d'ailleurs des ressources politiques, des ressources financières en temps et autres, pour le faire de façon forcément efficace. Cela prend du temps, incontestablement, mais je pense que l'affaire mérite d'être tentée. Est-ce alors une américanisation de la France, comme on me l'a parfois dit ? Non, je pense qu'il est également utile de reconnaître les problèmes incontestables posés, en particulier aux États-Unis, par ce qu'on appelle identity politics, par les politiques identitaires qui deviennent très nettes à partir des années 70. Le premier problème, c'est bien sûr celui de la mise de côté de la question sociale, si on peut dire, et on voit bien que la question de la pauvreté aux États-Unis est devenue une question qui a été politiquement abandonnée, y compris lors de la dernière campagne présidentielle. On a peu parlé des plus pauvres, incontestablement. La question du salaire minimum, de la protection sociale, toutes ces questions-là sont évidemment en déshérence politique depuis les années 70. La politique identitaire offre également, engage plus exactement dans des impasses politiques, à mon avis, assez graves, dans la capacité des groupes à rassembler et à faire des alliances, à avoir des alliés, ce qui me paraît être un des fondements de l'action politique. C'est l'art de l'alliance, hein, c'est de trouver, au-delà de ceux qui sont directement concernés, des personnes avec qui on puisse dialoguer et se renforcer et peser dans les rapports de force politique. Donc il est indispensable d'avoir un regard lucide sur les politiques dites identitaires telles qu'elles se sont structurées aux États-Unis. Mais il est également possible d'éviter les pièges de la politique identitaire en s'engageant dans une démarche moins identitaire que minoritaire, précisément. C'est-à-dire une démarche qui consiste à dire, oui, il est possible d'organiser les groupes sur la base, non point d'une identité qu'il s'agirait de défendre absolument, mais sur la base de torts et de méfaits vécus en tant que noir, arabe, femme, homo, etc., etc. Et donc, il est possible de s'engager sur une voie qui est une voie minoritaire plutôt que identitaire, sans méconnaître, bien entendu, les processus par lesquels les groupes peuvent se saisir d'un point de vue identitaire d'un certain nombre de questions, y compris de questions mémorielles, qui sont indispensables à l'estime de soi, parce que les questions relatives à l'estime de soi sont évidemment très importantes pour des groupes qui sont l'objet de processus historiques de minoration. Mais il n'en demeure pas moins que, y compris en incorporant des éléments identitaires qui me semblent indispensables à l'estime de soi, on peut s'engager dans une démarche qui est une démarche minoritaire, par laquelle on peut souhaiter que la société civile française s'ouvre à des formes de représentation qui, incontestablement jusque-là, étaient vouées aux gémonies pour les raisons qu'on a dites.
Merci Pape Ndiaye d'avoir été avec nous pour éclairer les grands enjeux de ce temps ainsi que ses injustices.
Merci beaucoup.